Demeline Vin depuis Londres.
C'est lors d'une réunion d'entreprise en 2019 que Franck Hester aurait déclaré à propos de la députée Diane Abbott « Je ne suis pas raciste, mais elle me donne envie de détester toutes les femmes noires. Elle mériterait qu'on lui tire dessus. » Fin de citation. Une déclaration d'autant plus grave que Franck Hester est le plus gros donateur du Parti conservateur au pouvoir. Il leur a versé plus de 12 millions d'euros et jouit à ce titre d'une certaine influence. Dès la publication des propos dans la presse, le Parti travailliste, auquel appartient Diane Abbott, élu depuis 37 ans, a réclamé que les conservateurs rendent l'argent. Sans quoi, le Labour les accuse de cautionner les déclarations de leurs financiers. Franck Hester a présenté ses excuses ce mardi. Il admet avoir tenu des propos insultants à l'égard de Diane Abbott, mais réfute les accusations de racisme qu'il dit exécrer. L'élu a réagi dans la journée par communiqué. Elle se dit terrorisée et rappelle que deux députés ont été assassinés ces dernières années. Plusieurs membres du gouvernement ont reconnu des propos déplacés, mais pas racistes, et appellent à passer à autre chose. Emeline Van Londres, RFI.
Et dans l'actualité européenne, toujours, le président de la Roumanie annonce être candidat à la tête de l'OTAN. Klaus Iohannis l'a annoncé dans une brève allocution. Il se présente donc pour briguer le poste de secrétaire général de l'Alliance et succéder ainsi à Jens Stoltenberg, même si pour l'instant c'est plutôt le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, qui fait figure de favori. Jens Stoltenberg, lui, reste donc à la tête de l'OTAN jusqu'au 30 septembre prochain. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir écouté. Vous pouvez le réécouter, bien sûr, sur notre site internet rfi.fr, mais aussi sur notre application mobile RFI Pure Radio. Et l'actualité continue dans quelques instants. Restez à l'écoute. RFI 19h12 à Paris, 18h12 en temps universel. RFI Soir continue avec vous, Romain Ouzoui.
Merci Sophie Poudrat pour ce journal. On va tenter de tracer les perspectives en Haïti après la démission annoncée par Ariel Henry, le Premier ministre. Mais d'abord les sports. Bonsoir Cédric de Oliveira.
Bonsoir Romain.
Le football pour débuter, le retour de la Ligue des Champions, la suite des huitièmes de finale retour, notamment un alléchant FC Barcelone-Naples.
Oui, un duel entre deux clubs prestigieux mais qui ne traversent pas vraiment la meilleure passe de leur histoire, jouant les seconds rôles dans leurs championnats respectifs. À l'aller, les Blaugrana étaient allés chercher le match nul partout à Naples. Tout reste donc à faire pour les hommes de Xavi. Il faudra gagner au stade Montjuïc où joue le Barça momentanément pour cause de travaux au Camp Nou. Et l'entraîneur catalan espère que ces hommes pourront répondre présents.
Je dirais à mes joueurs de ne pas avoir peur. La crainte n'est pas bonne pour eux. Nous avons l'opportunité d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions, de figurer parmi les 8 meilleures équipes d'Europe. Contre Naples, on aura l'occasion de monter une marche et d'atteindre le top 8 européen. Ça fait 4 ans que l'on n'a pas atteint les quarts. On doit y retourner, sans avoir peur.
Oui. Xavi avant FC Barcelone-Naples, on va laisser terminer, ce sera tout à l'heure à partir de 20h temps universel.
On sera évidemment à l'écoute. Autre match de la soirée, Cédric, Arsenal qui affrontera le FC Porto.
Oui, a priori les Gunners partent avec les faveurs des pronostics, même s'ils ont perdu le match aller 1-0 au Portugal. Leader et meilleure attaque de Première Ligue, Arsenal tentera de profiter de jouer à l'Emirates pour l'emporter par plus d'un but d'écart, ce qui serait un petit événement pour le club londonien qui n'a pas franchi l'écueil des huitièmes de finale depuis 2010.
Alors ça aussi c'est un petit événement, un gros événement. Même en tennis, sensation Indian Wells aux États-Unis, Novak Djokovic éliminé au troisième tour du tournoi américain.
Oui, qui plus est par un illustre inconnu, j'imagine que vous entendez son nom pour la première fois, Luka Nardi, 123e joueur mondial, qui avait pour idole justement le Serbe, numéro 1 mondial, a réalisé l'exploit de sa jeune carrière, 6-4, 3-6, 6-3 pour battre Djokovic à 20 ans. Il a donc sorti un joueur, un numéro 1 mondial qui paraissait déjà dans le doute au tour précédent. C'est un véritable coup d'arrêt pour lui.
J'ai surtout été surpris de mon très faible niveau de jeu. J'ai perdu parce qu'il a fait un très bon match, mais aussi parce que j'en ai fait un très mauvais. Et c'est vrai, je n'ai toujours pas gagné de tournoi cette année. Ce n'est pas dans mon habitude. J'ai souvent commencé mes saisons en gagnant un grand chelem, mais c'est comme ça, c'est le sport, je dois l'accepter. Là, ce serait bien quand même de briser cette spirale un peu négative que j'ai depuis 3 ou 4 mois maintenant.
I haven't really been close to my best.
Voilà, Novak Djokovic éliminé au prochain tour. Nardi affrontera l'Américain Tommy Paul qui a battu Hugo Humbert. Autre huitième de finale entre Gaël Monfils, le dernier représentant français, et le Norvégien Casper Ruud.
Eh bien, merci pour ce journal des sports, Cédric de Oliveira, 14h15 à Port-au-Prince. En Haïti, l'avenir dira si c'est une étape clé ou non en vue de la résolution de la très profonde crise. En tout cas, c'était une demande incessante de la population. Ariel Henry, la nuit dernière, a annoncé sa démission. Place désormais à un conseil présidentiel de transition qui n'a pas encore été formé. En tout cas, Ariel Henry a précisé dans une vidéo que son gouvernement quitterait le pouvoir après l'installation de ce conseil. Cette décision d'Ariel Henry a été prise lors d'une réunion d'urgence des membres de la CARICOM, la communauté des Caraïbes, et de représentants de l'ONU en Jamaïque. Alors, quelle a été le poids américain dans cette décision? Quid de l'avenir? Question posée à Frédéric Thomas, docteur en sciences politiques, chargé d'études au CETRI en Belgique, invité d'Anne Cantner dans le journal d'Haïti et des Amériques.
Et puis la région a une influence, mais malheureusement, de fait, c'est les États-Unis qui mènent la danse, et pas plus les pays de la région que l'Europe, le Canada ou la France ne sont à même de se confronter, encore moins de s'opposer aux États-Unis quand il s'agit de fixer la stratégie internationale par rapport à Haïti.
C'est donc eux qui sont à la manœuvre. D'ailleurs, Ariel Henry se trouve actuellement à Porto Rico, donc territoire américain. Une solution politique imposée, une force multinationale à venir pour tenter de rétablir la sécurité. Haïti a remis sa souveraineté en d'autres mains, selon vous ?
Mais disons qu'elle avait déjà été largement confisquée, notamment à travers le gouvernement d'Ariel Henry, qui rendait plus compte aux instances internationales et à la Maison Blanche qu'à la population haïtienne. Ariel Henry ne contrôlait pas grand-chose, gouvernait encore moins et s'adressait continuellement à Washington parce qu'il savait que c'est de là qu'il détenait le pouvoir. Donc l'un des enjeux de ce pouvoir de transition, c'est aussi de reprendre en main le pouvoir.
Si tant est que ça soit possible, d'autant plus que pour l'instant, même s'il a démissionné, Ariel Henry est de fait encore en poste. Il reste jusqu'à ce que le fameux conseil présidentiel soit formé. Et puis, son parti, ses alliés sont bien présents au sein de ce fameux conseil. De quelle influence dispose-t-il encore, selon vous ?
Mais c'est assez difficile. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est aussi que les partis politiques en Haïti sont peu structurés, ils sont peu représentatifs. C'est souvent des coquilles vides autour d'une personne sans véritable programme politique. Et donc, c'est cette dispersion, cette fragmentation des partis politiques qui ne facilite pas non plus la construction d'un consensus national. Et donc là, l'enjeu, ça va être aussi le pouvoir, l'influence d'Ariel Henry dépend largement du soutien international qu'il jouit ou dont il peut jouir encore.
On sait aussi que certains partis politiques ou personnalités politiques ont instrumentalisé les gangs à leur profit, même si aujourd'hui il est un peu difficile d'établir les liens potentiels parce que les gangs ont acquis une certaine autonomie. En tout cas, il y a des relations qui datent de plusieurs années déjà. Est-ce que vous pensez que les chefs de gangs pourraient obtenir une amnistie en échange d'une pacification de Port-au-Prince ?
En tout cas, ils font pression là-dessus, mais le danger, c'est plus au-delà de cette amnistie, c'est qu'à travers ces partis politiques et la volonté d'organiser au plus vite des élections, ces élections en viennent à normaliser les liens entre la classe politique, l'oligarchie d'un côté et les bandes armées, et accélérer la gangstérisation de l'État. Donc ce qui est important, c'est que sous prétexte d'un consensus national, on n'en vienne pas à assurer l'immunité et l'impunité de ces bandes armées et des membres de l'élite haïtienne qui les financent, qui les soutiennent.
Voilà, Frédéric Thomas, docteur en sciences politiques chargé d'études au CETRI en Belgique avec Anne Cantner. La question de l'aide à l'Ukraine dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française. Les débats se sont ouverts il y a un peu moins de 3 heures. Ils promettent ces débats d'être houleux. La gauche avance en ordre dispersé. Le Rassemblement national prévoit de s'opposer. Nous sommes à un point de bascule de ce conflit, répond le Premier ministre Gabriel Attal en introduction des débats. Alors au-delà de l'aide financière et de la possible entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, la question de l'appui militaire inquiète particulièrement les Français. Souvenez-vous, Emmanuel Macron qui avait dit ne pas exclure l'envoi de troupes en Ukraine. La crainte de voir le conflit se déplacer en Europe est très partagée dans l'opinion française. Reportage Pierre-Olivier.
Aucune limite, aucune ligne rouge au soutien de la France à l'Ukraine. Ces propos d'Emmanuel Macron inquiètent une grande partie de la population. Pour cette jeune active, le président devrait en priorité s'occuper des problèmes des Français.
C'est inquiétant parce que je pense qu'il sort un petit peu de son rôle de président qui est de soutenir les Français. Occupons-nous correctement des gens qui sont chez nous et ensuite on verra pour le reste du monde.
Des soldats occidentaux envoyés sur le sol ukrainien, une option pour Emmanuel Macron que certains ont du mal à comprendre.
Je ne suis pas persuadée depuis le début que ce conflit, qu'il y a un risque d'extension, si vous voulez. Je pense que c'est vraiment un conflit territorial. Je ne suis pas persuadée que ce soit une très bonne chose de s'engager complètement là-dedans. Non.
D'autres, au contraire, craignent une extension du conflit. Et considère la France comme isolée, alors que la majorité des pays européens ne suit pas la ligne d'Emmanuel Macron.
Moi, je me sens assez inquiet dans le sens où le chef de l'État, il a dit ça. Et en fait, il a été largement désavoué par tous ses partenaires européens qui ont dit « nous, on ne veut pas y aller, surtout pas ». Donc c'est ça qui m'a un peu fait flipper, c'est de voir qu'il n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde que les partenaires européens. Et je me dis que la France toute seule est peut-être pas à même de pouvoir bomber le torse comme il l'a fait.
Même les États-Unis refusent pour l'instant d'intervenir militairement en Ukraine. Mais pour 3 Français sur 10, Emmanuel Macron a eu raison de souligner qu'il ne fallait pas avoir de limite contre la Russie.
Je soutiens Emmanuel Macron dans cette démarche. Je pense que celui qui a le plus peur d'une telle déclaration, c'est Vladimir Poutine lui-même. Je pense qu'il a très peur de l'OTAN.
La majorité des Français, elle, a plutôt peur de la réaction que pourrait avoir Vladimir Poutine en cas d'envoi de troupes. Pour Erwan Lestrohan, directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa, la Russie n'est pas un adversaire à combattre pour une majeure partie de la population.
Quand on sonde les Français sur l'attitude que doit avoir Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie, on mesure au même niveau que ce qu'on mesurait en mars 2022, ça n'a pas changé. Ils ne sont que 37% à considérer que la Russie de Vladimir Poutine est un adversaire à combattre, ce qui domine 51% des Français. C'est le sentiment que la Russie est un mal nécessaire avec lequel il faut composer. Donc ça explique bien ce refus des Français d'entrer en conflit avec la Russie, non seulement parce que Vladimir Poutine et la Russie inquiètent, mais aussi parce que ça n'est pas considéré comme un adversaire à combattre.
Autre argument mis en avant par beaucoup de Français, le coût d'une intervention armée, alors que depuis 2 ans, l'inflation est très forte en Europe.
Reportage signé Pierre-Olivier du Service France de RFI. Également en France, le succès des tests génétiques. Ils sont vendus en kit sur Internet. Mais la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, lance une mise en garde. On en parle avec vous, Dominique Dezonnet. Une mise en garde car quand ils envoient leurs échantillons salivaires, les internautes permettent à des sociétés de récupérer de nombreuses informations sensibles. Ces sociétés qui sont sur Internet, des informations, Dominique, qui peuvent être interceptées par des pirates ou qui peuvent être vendues auprès d'assurances, de banques ou de groupes pharmaceutiques. Et cela, évidemment, sans votre consentement.
Oui, en profitant de cet engouement des internautes pour acheter en ligne des tests génétiques, les entreprises qui les proposent collectent au passage de nombreuses informations personnelles et en premier, les données relatives à l'état de santé d'un individu qui ont beaucoup de valeur pour les banques afin de déterminer par exemple les risques que présente un individu demandant un prêt. Les assureurs qui s'en servent également pour évaluer le montant de votre police et prévoir les éventuelles indemnités auxquelles vous pouvez prétendre en cas de longue maladie incapacitante, sans oublier les grands groupes pharmaceutiques qui récupèrent vos informations génétiques sans votre consentement. Voilà ce que met en garde l'autorité française, la CNIL. Par ailleurs, les sociétés qui vendent ces tests génétiques en ligne des données relatives à l'identité de leurs utilisateurs, comme leur nom, leurs coordonnées bancaires, l'adresse de courriel ou de leur domicile. Ces nombreuses données supplémentaires sont parfois collectées par voie de questionnaire, indique la CNIL. Dans ces formulaires, vous indiquerez par exemple vos relations maritales ou familiales, les dates clés sur des événements de vie comme les mariages ou les décès, vos goûts alimentaires, votre origine ethnique ou encore vous pourrez envoyer des photographies vous représentant.
Et Dominique, c'est données donc issues de ces tests génétiques, elles ne sont pas seulement personnelles, elles sont, c'est ce que rappelle la CNIL, pluripersonnelles.
Effectivement, car les données génétiques sont non seulement liées à l'ADN de leur porteur, mais concernent tous les membres d'un groupe familial. Les gènes sont partagés entre ascendants, descendants et familles proches, rappelle l'autorité qui prévient que contrairement à un mot de passe, eh bien, il n'est pas possible de changer son ADN. Les résultats de ces tests qualifiés de peu fiables par la CNIL peuvent révéler des informations délicates en dévoilant par exemple des secrets de famille, comme une adoption, une infidélité, ou encore indiquer de faibles prédispositions à une pathologie, ces résultats à caractère anxiogène amèneraient ainsi de futurs parents à renoncer à leur projet de fonder une famille.
Alors, il y a donc le risque hein, lié à une exploitation commerciale de ces données intimes, mais... Pour les internautes, il y a aussi des risques de piratage.
Oui, comme c'était le cas en décembre 2023, le site 23andMe, spécialisé dans les tests génétiques récréatifs, révélait que des pirates avaient dérobé les informations confidentielles de 6 millions de ses clients. En France, le code pénal interdit l'achat d'un test génétique sous peine de 3 750 euros d'amende. Les entreprises qui proposent ce type de service sont passibles de 15 000 euros d'amende et d'un an de prison. Ces analyses génétiques ne peuvent être réalisé dans l'Hexagone qu'à la demande d'un médecin à des fins thérapeutiques, un juge dans le cadre d'une recherche de paternité ou la police pour les besoins d'une enquête pénale.
Eh bien merci Dominique Dezonnet. Allez, un coup d'œil à la pendule dans moins de 5 minutes. Ce sera la première édition d'Afrique Soir et à la une, le conflit dans l'est de la RDC. Le président congolais Félix Tshisekedi qui se dit prêt à rencontrer son homologue du Rwanda, Paul Kagame, mais cela à certaines conditions. On en parle avec Sylvie Berruet, mais d'abord question d'environnement. Et ce soir, est-ce que la présence de méga camions sur les routes, c'est bon pour le climat ? On en parle car aujourd'hui, le Parlement européen s'est prononcé en faveur de l'autorisation de circulation de camions pouvant mesurer jusqu'à 25 mètres de long, peser 60 tonnes contre aujourd'hui maximum 44 tonnes. Bonsoir Simon Rosé.
Bonsoir.
Alors, l'argument écologique est évoqué pour justifier une telle décision, mais qu'en est-il réellement ?
Eh bien, c'est vrai que de prime abord, ça paraît logique. Hein. On peut mettre plus de choses dans un gros camion que dans un petit, et donc on n'a pas besoin d'en avoir autant. C'est mathématiques. C'est pour résumer l'un des arguments avancés par les promoteurs de cette réforme. Et moins de camions, ça fait moins de moteurs qui tournent et donc moins d'émissions de gaz à effet de serre, en effet.
Donc voilà pour ceux qui défendent cette réforme. Les détracteurs ont également évidemment des arguments.
Et oui, ils répondent qu'en matière de baisse des émissions, c'est toujours la réduction du poids des véhicules qui est le plus efficace. Mais l'argument principal, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, Romain, c'est quelque chose qu'on observe systématiquement à chaque fois qu'on obtient un gain d'efficacité. Un exemple très souvent cité, les ampoules à LED, elles consomment moins d'électricité que leurs ancêtres à filament. On s'est donc dit, chouette, ça va consommer moins d'électricité. Eh bien non, on a tout simplement ajouté plus d'ampoules et ça a totalement annulé le gain. Pour les camions, la crainte est la même, on mettra plus de choses dans les méga camions, certes, mais il n'y en aura pas moins qui rouleront, car en fait, on transportera tout simplement plus de marchandises avec eux. Il y a également d'autres arguments contre cette mesure, de la sécurité routière à l'impact de ces mastodontes sur les infrastructures, notamment sur les ponts, en passant par la concurrence à des moyens de transport plus propres comme le fret ferroviaire, le fret fluvial. Les représentants de ces secteurs sont d'ailleurs sans surprise vent debout contre ce projet, et alors qu'ils ne représentent que 9% du transport de marchandises aujourd'hui.
Oui, seulement 9%. Pourtant, décarboner ce secteur, c'était essentiel pour respecter les objectifs climatiques.
Oui, le transport au sens large, c'est-à-dire le transport de personnes et le transport de marchandises, c'est le domaine le plus émetteur après la production d'énergie. Grosso modo, un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Là-dedans, le transport de marchandises en représente une petite moitié. Ce n'est donc pas du tout négligeable et c'est surtout l'un des domaines les plus difficiles à décarboner. Pire, ces émissions ont même tendance à